À quoi va ressembler la médecine de demain ? On assiste en ce moment à un certain nombre de bouleversements dans le domaine de la santé, un domaine qui évolue extrêmement vite au rythme des progrès technologiques. Et samedi, le Théâtre de l'Odéon à Paris va accueillir sur ses planches des chercheurs, des médecins, des philosophes pour discuter des connaissances sur les recherches et les progrès médicaux et sur la santé connectée. C'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré avec mes invités, franceinter.fr et le mot-clé L'Attaque pour vos messages et vos questions. Et puis donc la découverte d'une nouvelle espèce humaine, c'est ce qu'affirment en tous les cas des chercheurs sud-africains. L'annonce est d'importance si elle se confirme. Direction donc l'Afrique du Sud en direct dans un instant. C'est Stéphanie Texier qui réalise cette Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Olivier Monod et Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
À quoi donc va ressembler la médecine de demain ? C'est le dossier dans quelques minutes de La Tête au Carré avec mes invités Yves Agide, Alexandra Dur et Alain Fischer. Bonjour à
Bonjour.
Tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Yves Agide, la médecine de demain sur les planches du Théâtre de l'Odéon samedi, c'est une drôle d'idée, non ?
C'est une idée, en tout cas, originale, c'est la première fois.
Oui, vous allez vous mettre en scène, alors? Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, c'est un vrai spectacle.
Ah ouais?
Avec des
numéros de
des
chercheurs.
Des gens très compétents et qui ont déjà bien répété, qui vont faire des exposés très brefs, de 4 ou de 7 minutes.
Oui.
Mais l'intérêt, c'est que c'est dans un théâtre.
Oui.
Un théâtre qui est emblématique, qui est un théâtre public et qui est aussi emblématique de l'imagination, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Donc, c'est à être la science, vraiment, au service de la santé, avec l'impact sur la société, puisque ça s'appelle 3S,
c'est ça.
C'est science,
oui.
Santé, société.
Voilà, avec le public qui pourra donc poser ses questions également aux chercheurs et venir à leur rencontre. Alexandra Dur, par exemple, est-ce que dans quelques années, la médecine prédictive pourra tout nous dire sur nos futures maladies? Est-ce qu'on va pouvoir lire dans la boule de cristal ou pas?
Eh bien justement, je crois que c'est pas du tout un bon terme d'utiliser prédictif parce qu'on prédit pas grand-chose.
Mmh.
La génétique, c'est pas fantasmatique, la boule de cristal, mais c'est plutôt de pouvoir voir les choses en prospective, d'anticiper peut-être un handicap ou une maladie, et ça nécessite un accompagnement.
Oui, on fait déjà des grands progrès quand même dans ce domaine du prédiagnostic, en tout cas des maladies.
Le prédiagnostic, c'est bien.
Ouais. On en parlera avec vous dans quelques instants. Alain Fischer, les maladies rares, vous en parlerez également. Elles sont très importantes pour justement ces futures avancées médicales aussi.
Absolument. Les maladies rares méritent qu'on s'intéresse à elles parce qu'il y a des malades derrière, malheureusement, qui sont gravement handicapés. Mais aussi parce qu'il y en a déjà plusieurs exemples. L'étude approfondie de la biologie qui sous-tend une maladie rare peut permettre d'identifier un mécanisme d'une maladie plus fréquente et parfois même un traitement. Donc c'est doublement gagnant dans ce cas-là.
Il faut donc encourager la recherche dans ce domaine, évidemment. On va se retrouver dans un instant donc pour en discuter. Les messages arrivent déjà pour vous. Des questions donc sur ces ruptures, hein, ces grands bouleversements, parce qu'il faut s'y intéresser aujourd'hui. C'est une vraie question de société. Franceinter.fr et le mot-clé L'Attaque. Et donc à la une de la science aujourd'hui, c'est tombé ce matin l'annonce en Afrique du Sud de la découverte d'une nouvelle espèce du genre humain.
Et cela nous a conduit, mesdames et messieurs, à cette conclusion remarquable que nous venons de découvrir une nouvelle espèce inconnue du genre humain. Regardez ces os, regardez ces fossiles, c'est maintenant et c'est gratuit.
Voilà, et le sens de la communication, hein, vous l'aurez remarqué évidemment, la voix du chercheur Liberger qui présentait donc à la presse ce matin depuis Johannesburg Homo naledi, une nouvelle espèce du genre humain. Liberger qui a étudié la morphologie de 15 dépouilles d'hominidés, découvert donc par des spéléologues en 2013 dans une grotte très difficile d'accès située à 500 km de Johannesburg. Selon lui, les différences avec les espèces connues sont suffisantes donc pour définir une nouvelle espèce du genre Homo. Naledi signifie étoile en langage sesotho, et nous filons justement en Afrique du Sud, en direct du site baptisé le berceau de l'humanité, où nous retrouvons Laurent Brussel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géomorphologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Vous avez beaucoup travaillé sur Little Foot, et vous êtes donc à quelques kilomètres de la grotte justement où a été découverte cette nouvelle espèce humaine. Dites-nous exactement où vous êtes.
Alors, je suis exactement sur la colline de Stackfontein, donc juste à côté de Little Foot. Et ça domine, c'est à peine à 500 mètres à vol d'oiseau du site de Rosenta. Et donc je domine à peine et je vois le site de là où je suis.
Voilà. Donc vous êtes près de ce site qui fait déjà la une de l'actualité absolument partout dans le monde entier. Et puis on accueille également par téléphone pour commenter donc cette découverte depuis Bordeaux, Isabelle Crèvecœur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au CNRS. Isabelle Crèvecœur, est-ce qu'on peut vraiment affirmer aujourd'hui que Homo naledi est une nouvelle espèce?
Alors c'est une question intéressante et tant qu'on n'aura pas quelque part la publication scientifique associée à cette découverte, on est en tout cas en tant que scientifique un petit peu dans le flou. Disons que pour annoncer ce type de découverte et annoncer une nouvelle espèce, il faut quand même passer par un protocole bien établi qui doit être validé par les pairs dans une publication, à revue de comité de lecture. Mmh. Et ça passe en fait par la définition d'un holotype, donc un spécimen particulier pour décrire cette espèce. Alors actuellement, on a la communication de presse qui a été faite, donc j'imagine que cette nouvelle espèce a dû être validée de manière scientifique et on attend avec impatience d'avoir le détail de toutes les caractéristiques qui permettent de définir cette nouvelle espèce.
Alors Laurent Bruxelles, dites-nous tout ce que vous savez, parce qu'évidemment vous travaillez beaucoup sur place en Afrique du Sud, vous connaissez Liebherger j'imagine, ça faisait longtemps que vous aviez entendu parler de la découverte de cette nouvelle espèce humaine, puisque ça remonte à 2013 hein, en l'occurrence.
Alors ça faisait plus de 2 ans, donc on avait entendu parler de la découverte de ce site, effectivement, de restes tout à fait exceptionnels. Ce n'est que l'an dernier qu'on a compris que c'était un nouvel homo. Voilà, il y a eu des fuites, des communications petit à petit, donc on a appris peu à peu ce dont il en ressortait. Et l'an dernier, j'ai été invité à visiter la grotte, donc j'ai pu aller visiter le site. Si ce n'est que je n'ai pas pu accéder à la salle dans laquelle j'étais en cours de fouille, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez compliqué. Et là, effectivement, on peut confirmer que l'accès au site lui-même est extrêmement compliqué, même pour un spéléologue. On se pose des questions tellement les passages sont étroits.
Oui. Pourquoi la datation de ces ossements, qui sont annoncés entre 1 et plus de 2 millions d'années, sont difficiles justement à définir, Laurent Bruxelles?
Mais parce que, là, en l'occurrence, ce sont des ossements pour lesquels il n'y a pas de contexte. C'est-à-dire que si on veut dater un ossement, quel qu'il soit, pour l'instant, on ne peut pas le dater par lui-même. Il n'y a pas de méthode qui permette de dater de manière assez précise, en tout cas pour ces périodes-là. Donc, il reste 2 solutions. Soit il y a des sédiments qui le recouvrent et on peut dater ces sédiments, comme par exemple de la calcite, des stalactites ou des stalagmites. Mmh. Ou alors, il faut que ces restes soient associés à de la faune. Des rongeurs, vous voyez, des bovidés, des choses comme ça. Donc, pour certains, on connaît justement la période d'existence. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a que de l'homo. Il n'y a aucun autre animal, aucune autre faune associée. Donc, pour l'instant, on dirait que la date, elle flotte.
Voilà. Ouais. Isabelle Crèvecœur, évidemment, la datation, c'est extrêmement important. Hein.
Oui, surtout quand on parle des premiers représentants du genre homo, évidemment. Dans des périodes, voilà, aux alentours de 2 millions d'années, on est dans un registre fossile qui est extrêmement pauvre, notamment en Afrique du Sud, pour les premiers représentants du genre homo. Et donc, on est dans cette période de temps et de transition entre les derniers représentants australopithèques et les premiers représentants du genre homo, mmh. La découverte qui a été faite avec et qui est communiquée avec autant de restes humains, c'est évidemment extrêmement important. Si on est dans une autre période de temps, par contre, ou quelque chose de plus récent, c'est tout aussi intriguant, puisqu'on aurait à ce moment-là une population de premiers représentants du genre homo qui aurait des caractéristiques donc à la fois primitives et dérivées dans des périodes de temps à laquelle on ne les attend pas. Donc on est vraiment très en attente de cette date.
Oui. Et Laurent Bruxelles qui aurait peut-être été capable déjà à ces époques très lointaines, donc 2 millions d'années, de réaliser des rites funéraires, hein, parce que ça pose problème ça quand même.
Ouais. Ah non, effectivement, c'est le fait qu'il n'y a que des homos qui a été interprété par l'équipe qui a fouillé ce site comme étant un rituel. C'est déjà assez fort comme mot, ça signifie beaucoup de choses. Là, le fait est que la question est pourquoi il n'y a que des homos, pourquoi finalement il n'y a pas d'autres faunes. Lorsqu'on travaille dans les grottes sud-africaines, quelle que soit la profondeur à laquelle on se rend, on s'aperçoit qu'il y a de la faune, il y a des porc-épics, il y a des hyènes, il y a beaucoup d'animaux qui vont très très loin sous terre. Donc là, la question, c'est pourquoi il n'y a que l'homme. Il y a quand même, je pense, tout un travail à refaire au-delà de la datation, c'est l'étude de la qualité par elle-même, puisqu'effectivement, pour l'instant, il est dit qu'il y a une seule entrée, c'est celle que l'on pratique. Comme je vous le disais, elle est tellement étroite que j'ai du mal à penser qu'on ait pu penser faire passer des corps ou transporter, voire même des ossements jusque-là. Mm-hmm. Par contre, il serait important de voir s'il n'y a pas d'autres entrées. Et lorsqu'on aura une vision un peu globale, à la fois de la colline, de la grotte et de son organisation, on pourra peut-être même plus réfléchir sur que font ces restes à ce niveau-là.
Laurent Bruxelles, vous êtes donc dans le berceau de l'humanité. C'est un lieu tout à fait exceptionnel, évidemment, pour des paléo-anthropologues. C'est là, justement, qu'a été découvert Littlefoot, sur lequel vous travaillez beaucoup et qui a été daté à 3,7 millions d'années. Hein.
C'est ça, exactement. On est avec lui en ce moment, avec Ron Clark, d'ailleurs. On était en train de l'observer et nous allons retourner tout à l'heure dans la grotte, continuer à observer les couches. Parce que là aussi, au-delà de la description du fossile lui-même, eh bien, il faut toujours revenir sur le site et voir son contexte, puisque ça valide la datation, ça valide l'ambiance, enfin, voilà, les conditions sédimentaires dans lesquelles il s'est mis en place. Et donc, ça, voilà, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini non plus pour au moins aller dire. Voilà, il y a tout un travail à faire pendant de longues années afin de valider tout ça.
Ouais. Et donc, vous êtes avec Littlefoot, c'est ce que vous êtes en train de nous dire là en ce moment?
Ah oui, il est à 20 mètres de moi, entièrement déplié comme on voit Lucie, par exemple, sur les photos, ouais. Puisqu'on rencontre qu'il est en train de travailler sur la publication finale.
Incroyable.
Donc aujourd'hui, il est entièrement déballé juste pour nous.
Bah écoutez, c'est incroyable en tout cas de vous savoir aussi près de ce fossile exceptionnel aussi qu'est Littlefoot, et dont on reparlera d'ailleurs dans les jours qui viennent avec vous en compagnie d'Yves Coppens. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications autour de Homo naledi, qui est en ce moment, on le voit sur les écrans, vraiment à la une de tous les journaux dans le monde entier. C'est incroyable, avec cette annonce qui devra quand même être confirmée avec une publication qui risque d'arriver. Isabelle Crèvecœur, merci également pour vos explications. À très bientôt, merci d'être venu à la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la maladie d'Alzheimer pourrait potentiellement être transmissible, selon une étude publiée dans la revue Nature par des chercheurs de Londres. Une caractéristique de la maladie a été observée chez des patients décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces patients avaient été traités par une hormone de croissance d'origine humaine. Les chercheurs pensent que ce traitement aujourd'hui interdit pourrait avoir déclenché la maladie d'Alzheimer chez ces patients. Yves Agide, un mot, un commentaire sur cette information?
Oui, on sait depuis longtemps que des critères de la maladie d'Alzheimer sont trouvés dans les maladies de Creutzfeldt-Jakob. Vous rappelez la vache folle, mm-hmm. Là, c'est les enfants qui avaient été traités par l'hormone de croissance infectée.
Oui.
Alors, c'est intéressant de penser qu'on ait trouvé un lien de cause à effet. Ça, oui. C'est
avec
vraiment
une transmission,
une nouveauté.
Hein, donc, oui, voilà, pour cette nouveauté. Publication. Elle s'appelle l'idole de Chigir. Elle pourrait être la plus vieille statue de bois. Cette œuvre de près de 3 mètres de haut d'origine sibérienne serait aussi ancienne que les premières œuvres néolithiques du Proche-Orient. Après de nombreuses études, une équipe d'archéologues allemands lui donnerait l'âge de 11 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne sculpture de bois connu au monde. Et vous pouvez voir sa photo sur la page Facebook de La Tête au Carré, sur notre compte Twitter. Ne pas trop se voir, eh bien c'est le secret de la fidélité chez les manchots. Une étude publiée mercredi dans la revue Biology Letters et réalisée sur 10 couples d'une espèce de manchot monogame montre que les partenaires sont continuellement séparés par des centaines, voire des milliers de kilomètres. Au cours d'une année, les couples de manchots des îles Malouines ne seraient réunis que 3 mois par an, soit 23% du temps. Mais cette séparation ne les empêche pas de se reproduire chaque année avec le même partenaire. Félicitations. Citation. Allez, la médecine de demain, dans la tête au carré.
Cette fois, je crois que nous sommes complètement, ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument ça de faire. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait, y'a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutre, qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferais pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Se flinguer, il y aurait plus question de remettre nous sa patron. Et dans ma tête, je suis véritablement j'en peux plus. Et je me sens vaguement où va-t-on nous. Je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu. Cette chaîne de vie, pas long feu.
Pallonfeu et c'est Serge Gainsbourg sur France Inter.
Dans un avenir pas si lointain, une infime goutte de sang, un simple cheveu, définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, quand une seule cellule de n'importe quelle partie de votre corps peut vous trahir. Comment se cacher ? Alors que nous perdons 500 millions de cellules par jour.
Voilà, bienvenue à Gattaca pour illustrer, introduire notre sujet sur la santé et la médecine de demain, à l'occasion d'un rendez-vous qui aura lieu donc sur la scène du théâtre de l'Odéon après-demain samedi. Ben, je crois que c'est déjà complet d'ailleurs, Yves Agide, carrément.
Hein. C'est complet, en tout cas, oui. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de monde.
Bon, donc c'est pas complet.
Acheté beaucoup de tickets.
C'est pas complet, il faut
il y a,
dire.
Il y a 750 places, il paraît qu'il y a déjà 700 personnes qui ont réservé.
Bon, on peut essayer en tout cas de venir discuter avec vous des enjeux autour des progrès de la médecine. Yves Agide, donc, neurologue. Alexandra Dur, neurogénéticienne, Alain Fischer, immunologiste. Yves Agide, vous êtes membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui se trouve au sein de la Pitié-Salpêtrière. Alexandra Dur, vous êtes praticienne au sein du département de génétique et cytogénétique à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste de la maladie de Huntington. Alors la cytogénétique, s'il vous plaît, petit arrêt sur ce mot pour nous dire ce que c'est.
Alors la cytogénétique, je ne suis pas du tout spécialiste parce que moi je fais de la génétique plutôt clinique. Mm-hmm. Donc je suis un généticien clinicien. Mais la cytogénétique, aujourd'hui, elle est devenue aussi très moléculaire, donc ça fait partie de nos palettes de diagnostic.
Mmh. Et puis Alain Fischer, vous êtes médecin, professeur d'immunologie pédiatrique, chercheur, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine depuis 2011 et titulaire de la chaire médecine expérimentale au Collège de France. Les messages donc arrivent déjà nombreux sur le prédiagnostic. Justement, il y aura beaucoup de questions sur ce thème, sur le dossier médical informatique, sur les nanotechnologies, sur la maladie de Parkinson. Donc on a beaucoup de choses à se raconter. Ça s'appelle S3. Théâtre de l'Odéon, science, société, santé. Pourquoi ce rendez-vous, Yves Agide ? Alors, dans l'esprit très à la mode de ces conférences courtes, aujourd'hui, on a du mal à captiver le public, à le maintenir attentionné pendant longtemps.
La raison, c'est que la façon de prendre en charge les gens bien portants, et évidemment ceux qui sont malades, va changer du tout au tout. Donc, c'est un vrai défi de santé, à cause de quoi ? À cause de la science. Et avec un impact très important sur la société, d'où les trois mots. Mais ce qu'ont voulu faire les organisateurs, c'était de mettre ça à la disposition du grand public. Mmh. Donc dans un théâtre, disons, qui est très emblématique, parce qu'il est d'abord c'est un théâtre public, et puis en plus c'est un théâtre qui a la connotation de l'imagination. Donc c'est de mettre à la disposition un savoir très fort, par des gens très très compétents, pour un grand public, de façon la plus simple possible. C'est la première fois qu'on fait ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par des gens qui sont complètement bénévoles. Tout ça se refera, j'espère, dans les années qui viennent, une fois par an pendant 5 ans.
Et vous avez un beau casting, Oula.
Ouais, ouais.
Attention, ça rigole pas quand même. On a quasiment les meilleurs dans tous les domaines, à peu près.
C'est varié, mais c'est bien. Et alors, ce qui va être assez intéressant, c'est que d'une part, les exposés sont très brefs, soit 4 minutes, soit 7 minutes, avec un message fort et personnel, peut-être critique, mais certainement très optimiste, du moins je l'espère. Et puis qu'il y aura 3 grands intermèdes qui permettront pendant une heure ou plus à tous les participants d'aller converser et de s'entretenir avec les sachants.
Alexandra Dur étant une sachante, justement, qui a répété, alors c'est ça, vraiment, vous êtes montée sur scène déjà, vous avez fait votre travail. En combien de temps vous êtes parvenue à parler de neurogénétique ?
Alors l'ordre est 7 minutes, donc on fait 7 minutes pile, donc c'est bien. Non, il faut répéter parce qu'il faut que le message soit simple et qui va susciter une discussion autour de ce qu'on pense de la médecine de demain.
Oui. Et donc, vous êtes prête à aller sur scène, ça y est ? C'est un exercice nouveau quand même pour vous. Vous n'avez pas l'habitude d'aller sur les planches comme ça ?
Sur les planches à l'Odéon, sûrement pas. Non. Même si on fait des présentations et des conférences quand même tout le temps.
Vous avez l'habitude.
C'est vrai, mais c'est pas tout à fait le même exercice.
C'est un autre exercice.
Puis, on est entouré par des gens tellement qui ont vraiment plein de choses à dire. Donc, il faut garder le rythme.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un côté spectacle. Oui. Là, ce sera un vrai spectacle.
Oui. Une des stars de ce spectacle, ce sera Alain Fischer, Japan Prize quand même de cette année. Bah oui, quand même, il faut le dire, vous avez reçu un des prix les plus prestigieux quand même, en avril dernier, ce qui est quand même exceptionnel aussi. Et donc, vous serez là pour parler de votre discipline. C'est important. Ce dialogue entre le public, justement, et le monde de la recherche.
Oui, mais pas en tant que star, si je peux me permettre.
Non, bien sûr.
Je ne revendique pas mot, loin de là.
Je sais, moi qui l'emploie.
Ouais, ok. Oui, absolument. Je pense que nous souffrons d'une carence d'un dialogue raisonnable l'adjectif raisonnable me paraît très important, entre le monde scientifique et la société. Et c'est une magnifique initiative, et je suis ravi que Yves et d'autres l'aient prise. Ça participe de la nécessité absolue de pouvoir discuter sereinement, de répondre aux questions de façon rationnelle sur un très grand nombre de questions scientifiques et de questions générées par la science, et évidemment en particulier dans le domaine de la médecine et de la santé.
Ouais. Dans le domaine de l'immunologie, par exemple, vous avez beaucoup de bouleversements. Vous les observez vraiment quotidiennement par rapport à il y a 10 ou 20 ans.
Et je crois qu'on en parlera, ce ne sera pas moi, mais on en parlera lors de samedi, c'est qu'il y a le plus spectaculaire et l'observation au cours de ces 4-5 dernières années de progrès très significatifs du traitement d'une série de cancers jusque-là. À peu près incurables, comme certaines formes de mélanome, certaines formes de cancer du rein, etc., par des traitements immunologiques qui ont été fondés sur une approche de recherche fondamentale et en levant les obstacles, des freins aux réponses immunitaires. Et les résultats obtenus sont tout à fait spectaculaires. C'est un exemple, un autre exemple rapidement, un peu plus ancien, c'est le traitement de maladies inflammatoires rhumatologiques en neutralisant des cytokines. Par exemple, une qui s'appelle le TNF. Et si on neutralise le TNF à des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, on améliore considérablement leur maladie. Donc ce sont des progrès vraiment très tangibles de l'état de santé des gens.
Une question pour vous, tiens, sur Twitter de François. À quand une amélioration du système informatique à l'hôpital où en est le dossier médical personnel initié en 2004 ?
Bon, je suis pas absolument sûr que je sois le meilleur spécialiste de cette question. Ce qui est absolument évident, c'est que avoir un dossier informatique personnalisé est nécessaire. Je dirais que ce n'est pas qu'à l'hôpital. On peut espérer un jour que le dossier informatisé suive le malade où qu'il soit, en respectant naturellement toutes les conditions de confidentialité nécessaires. Les choses avancent, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Je sais qu'à Paris, il y a de gros efforts en ce moment pour aller dans ce sens. Puis c'est aussi un outil de recherche. Par exemple, des spécialistes ont constitué ce qu'on appelle des entrepôts de données, comme un entrepôt, mais évidemment qui n'est pas physiquement identifiable, où on stocke des données, par exemple des comptes rendus d'hospitalisation, de consultation de malades, et on peut ensuite, les gens qui savent faire ça, extraire des informations sur un nombre considérable de patients, et ainsi identifier telle ou telle caractéristique de maladie. Donc c'est une façon très intéressante de faire de la recherche.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le big data aussi, ces centres de données qui, alors pour le coup, participent vraiment à ces bouleversements dans le domaine de la médecine.
Plusieurs exposés sur les big data, c'est-à-dire les données qui concernent les malades et la société en général. Les problèmes éthiques qui vont de pair d'ailleurs, mais qui, en même temps, les questions scientifiques qui vont être résolues grâce à la possibilité d'examiner, de tirer des conclusions à propos d'un grand nombre de personnes et non pas de quelques-unes.
Oui. C'est les objets intelligents, les objets connectés qui ont aussi beaucoup bouleversé les pratiques, Ivagide.
L'idée des objets connectés, c'est de faire en sorte que le patient ait sur lui par exemple une veste ou un bracelet ou quelque chose comme ça, qui renseigne sur toutes les constantes du corps, la tension artérielle, la glycémie, etc. Et donc, avec un enregistrement continu de ces données en dehors des consultations, le médecin, de manière synthétique, bien entendu, au moment de la consultation, pourra bénéficier de tout ce qui s'est passé en dehors de la consultation, ce qui sera probablement extrêmement précieux pour l'avenir.
On s'est toujours intéressé, évidemment, sur le futur de la médecine au cours du siècle dernier. Un extrait d'archives de l'INA en 1965 qui nous emmène à Marseille pour se projeter dans la France des années 70. Écoutez, c'est assez amusant.
Le nouvel hôpital de Marseille Nord est un exemple des hôpitaux modernes qui poussent actuellement en France. Un simple numéro de téléphone et n'importe quel service, grâce à un réseau de conduits pneumatiques, peut obtenir en 15 secondes le médicament nécessaire. Mais la grande révolution hospitalière est ailleurs. L'utilisation notamment d'un circuit de télévision en couleur permet désormais d'intégrer en quelque sorte la faculté à l'hôpital, qui devient ainsi un centre de la science médicale appliquée.
Chacun son époque, Ivagide. Là, c'était les écrans en couleur, mais évidemment, ce sont d'autres outils qui sont utiles aujourd'hui.
Ouais. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de progrès. C'est aussi là qu'il va y avoir une rupture réellement dans la médecine de demain. Jusqu'à présent, on savait bien soigner les maladies aiguës ou subaiguës. En France, d'ailleurs, on est connu pour être excellent dans ce domaine. Mais demain, la médecine va complètement changer parce qu'il y a les progrès de la science, mais surtout parce que la médecine va être, on l'a dit un peu tout à l'heure, prédictive. On va pouvoir prévenir un certain nombre de maladies, on va faire participer les malades et on va disposer d'un grand nombre de nouvelles technologies qui vont bouleverser. Un des aspects les plus importants que les Français ne connaissent peut-être pas, c'est le vieillissement de la population en raison de l'espérance de vie qui a augmenté, hein, 30 ans en un siècle. Mmh. Et donc si vous voulez, c'est des problèmes qui sont des problèmes socio-économiques tout à fait redoutables pour nous et il faut les anticiper.
Alain Fischer,
oui, non, réaction,
vous voulez réagir au son qu'on a entendu.
Oui, parce que c'est très intéressant d'entendre ça 50 ans plus tard. C'est que, allez, on mettait déjà en avant un point absolument essentiel et pas tout à fait résolu, mais qui va bénéficier de nouvelles technologies, c'est l'information et la transmission de l'information. C'était ça qui était le sujet de cet exposé. Donc cette question était présente en 65. Les technologies de l'époque étaient relativement rudimentaires. Elles explosent et elles devraient faire que... enfin, l'information circule de façon appropriée au bénéfice des patients.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. Beaucoup de messages pour vous, je vous les transmets dans un instant, après Feu Chatterton.
L'Inde d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité, ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Jungle embuée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères. Ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boing, boing, et tes mouvements lancent de majesté. Boing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant. À gauche, à l'est, enfin, enfin, comme un vieil éléphant. Si tu penses, Paris, à Paris, et tes mouvements lancent de majesté, Paris. Boing, boing, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boing, boing, et tes mouvements sont de majesté. Boing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses.
Boeing, Feu Chatterton sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Yves Agide, Alexandra Duré, Alain Fischer sont nos invités cet après-midi à l'occasion donc de ce rendez-vous S3 à l'Odéon pour parler donc de santé, de médecine et bien sûr de ses rapports avec la société. Un site, hein, c'est s3odéon.fr, Yves Agide, pour ceux qui souhaitent encore tenter leur chance pour avoir une place. Hein.
Absolument. Oui.
Et pour aller au théâtre de l'Odéon, la médecine préventive et prédictive, c'est vraiment au cœur de la prise en charge des malades. C'est ce qui va bouleverser totalement les façons de travailler.
Je crois que les progrès de la science vont enfin permettre, de manière partielle au début, mais de manière croissante après, à faire que notre médecine du futur sera ce qu'on appelle souvent les 4 P, c'est-à-dire premièrement une médecine personnalisée. C'est ce que tu disais tout à l'heure à propos du cancer, c'est-à-dire qu'on donnait des thérapeutiques qui n'étaient pas efficaces en moyenne, mais sur une petite population, elle l'est, et maintenant, ces patients qui répondent sont identifiés, ce qui permettra de donner des thérapeutiques ciblées. Ça, c'est vrai, très connu pour le cancer, pour quelques autres maladies. J'espère que ça le sera aussi bientôt pour nos maladies du cerveau. La médecine sera préventive, dans la mesure où on est en train de mettre au point des tas de médicaments qui pourraient être donnés avant peut-être même le début de la maladie. Elle sera prédictive, Alexandra en parlera certainement, et elle doit être aussi participative, c'est essentiel. C'est-à-dire que les malades et les associations de malades doivent participer, doivent aider à trouver des nouveaux moyens pour mieux traiter, prendre en charge les malades, non seulement à l'hôpital ou près du médecin, mais aussi dans la ville.
Ouais, Giovanna sur Twitter demande quelle place justement pour la société civile dans votre manifestation de sachants, elle reprend votre terme, quid de l'expertise des patients?
Les patients seront représentés par 2 personnes, à propos notamment des réseaux de patients. Et il y a une personne qui a été un grand responsable d'une association de malades du sida. Mais je pense que tout le monde évoquera les médecins en tout cas évoqueront ce sujet à travers diverses interventions. Il faut aussi savoir que cet événement sera reproduit tous les ans. Donc on ne va pas toujours tout dire. Il est probable que dans les 5 années qui suivent, les patients seront aussi présents, peut-être plus encore.
Alexandra Dürr, vous avez créé en 92 la première consultation de diagnostic pré-symptomatique en France. De quoi s'agit-il exactement?
Oui, c'est avec Josué Feingold à l'époque où on a mis en place cette consultation parce qu'il y a eu la découverte d'un gène majeur dans une maladie grave, neurologique, la maladie de Huntington, pour laquelle on avait donc la possibilité de détecter l'anomalie génétique qui est coupable et qui est le coupable pour déclencher la maladie à n'importe quel moment de la vie. Pas seulement pour faire le diagnostic de la maladie, ce qu'on fait généralement avec les tests génétiques ou d'autres tests, mais de le faire en amont des premiers signes, c'est-à-dire de proposer un diagnostic présymptomatique à la demande des personnes à risque.
C'est ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent dans ces changements aussi, hein, qui opèrent sur des maladies aussi graves que celle-là.
Oui. Je pense que les gens qui sont à risque pour des maladies comme celle-ci, ces personnes-là connaissent la maladie. C'est pas une maladie peut-être qui arrivera comme un cancer ou peut-être une maladie d'Alzheimer. Ils connaissent bien la maladie dans la famille et ils savent qu'ils sont à risque. Donc c'est selon leur demande. Cette consultation a été mise en place.
Oui. Alors évidemment, c'est tout le problème effectivement de pouvoir prédire l'apparition de maladies pour lesquelles on n'a pas forcément de traitement.
Voilà.
Donc c'est toute la difficulté dans la façon dont on s'adresse justement aux personnes auxquelles on dira peut-être qu'elles sont porteuses des gènes.
Oui, je pense que la différence est vraiment dans le terme même. Quand vous utilisez le terme dépistage, c'est parce que vous dépistez pour traiter. C'est déjà quelque chose que vous faites pour être prêt à intervenir. Ça arrive dans pas mal de maladies pédiatriques d'ailleurs. Mais dans le pré-symptomatique, prédictif, j'aime pas beaucoup, comme je disais tout à l'heure. C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on prédit finalement? Mais pré-symptomatique, en tout cas, avant que les signes soient là, si on n'a pas de prévention à proposer, la question c'est pourquoi. Et ce pourquoi peut être répondu que par les personnes à risque eux-mêmes.
Oui, donc c'est un choix évidemment de ces personnes. Hein,
et une liberté.
De bénéficier effectivement de ces tests. Ces personnes sont accompagnées aussi réellement dans l'annonce des résultats.
La consultation est vraiment pluridisciplinaire là. Je crois que ça c'est quelque chose que en génétique on connaît bien, les psychologues sont très présents parce que pour anticiper
quelque chose qui va venir, qui s'inscrit dans une histoire personnelle très particulière. C'est pas tout le monde vit la maladie de la même façon. Mm-hmm. Et je pense que cette inscription et le timing, à quel moment on va choisir de savoir pour soi, est très personnel et doit être accompagné. Et les psychologues sont notre grand allié dans cette consultation.
Alors, pour toute personne ayant évidemment un antécédent familial de maladies graves, alors celle-là, Huntington, pourquoi pas, mais d'autres, est-ce qu'il faut conseiller quand même aux personnes de faire ces tests ou pas? Comment on s'adresse à elles? Qu'est-ce que vous leur dites en général?
On les conseille pas.
C'est un choix très libre, évidemment.
C'est un choix libre. Déjà, on sait pour la maladie de Huntington, où on fait ça depuis plus de 20 ans, que seulement 80% des gens 80% des gens à risque ne veulent pas savoir, et seulement 20% des personnes à risque viennent, même en consultation. Ouais. Et ceux qui viennent choisissent à ce moment-là, pas forcément de faire le test de suite, mais le faire à un autre moment dans leur vie. Donc vous voyez déjà, il y a des personnes qui viennent d'eux-mêmes, pour faire ce test, c'est déjà une population très particulière. Pas tout le monde veut savoir ce qui va lui arriver plus tard.
Ouais, mais c'est très compliqué, Alain Fischer, évidemment. Savoir qu'on est porteur de quelque chose qu'on n'a pas encore développé ni déclaré, c'est très lourd.
C'est très lourd et je pense que je ne suis pas l'expert. Et Alexandra l'est pour la maladie de Huntington. Je pense que c'est une situation tout à fait explicite de cela. Néanmoins, peut-être sur la médecine prédictive, il faut faire attention à bien circonscrire les domaines aujourd'hui où elle est possible, comme pour la maladie de Huntington, ou d'une manière générale, les maladies héréditaires qui sont liées à des mutations d'un seul gène, ou la mise en évidence de mutations dans un facteur de risque extrêmement fort qui peut atteindre 100% d'exprimer la maladie, et donc éventuellement des mesures de prévention ou de thérapeutique peuvent être envisagées, mais ce n'est qu'un spectre relativement étroit de la médecine. Et on parle aussi d'une autre médecine prédictive de cancer, de maladies inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer. Et là, il faut faire attention. Parce que l'héritabilité de ces maladies existe, mais c'est une part faible du déterminisme. Le déterminisme, il est lié à des tas de facteurs environnementaux de toute nature et probablement certains que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Certains, notamment en Amérique du Nord, mettent en avant le fait qu'assez vite, on devrait être capable
de lire dans une boule de cristal,
de lire la boule de cristal du génome. Et franchement, quand on regarde ce que ça représente, c'est quand même hautement discutable.
Il y a une vraie dérive là-dessus.
Il y a un risque. Mais le débat existe quand même. Il y a un vrai débat jusqu'où on peut aller. Il y a des articles très intéressants dans une des grandes revues médicales actuelles qui s'appelle Lancet sur ce sujet. D'autres, à l'inverse, disent c'est illusoire, ça coûtera trop cher, c'est surdéterminant et il vaut mieux envisager les questions sous un angle épidémiologique, par exemple.
Et c'est surstigmatisant aussi, évidemment.
Ça peut l'être éventuellement. Donc il faut. Je pense qu'à la fois la médecine prédictive existe et typiquement ce que fait Alexandra en est un très bel exemple d'utilité, mais il faut faire attention de ne pas étendre le concept de façon trop large et trop rapide.
Oui, Alexandra Dürr.
Juste pour appuyer là-dessus, je crois que la prédiction individuelle n'est pas prévisible. Je veux dire, ce qui va faire un gène dans un organisme donné, même quand dans une mutation, quand elle est majeure et unique, déjà c'est très compliqué pour savoir exactement quand la maladie va commencer, exactement comment elle va être, comment elle va s'exprimer. Et je pense que cette incertitude qu'on doit transmettre au consultant qui vient et qui a envie de savoir est essentielle.
D'où l'importance de l'accompagnement dans ces cas-là.
Absolument. Hein,
quand l'annonce, évidemment, confirme quand même qu'on porte la maladie, mais avec toute l'incertitude.
Les incertitudes.
Autour d'Alzheimer, on va écouter un extrait de ce film Still Alice qui est sorti cette année.
Cela fait plusieurs mois que je consulte un médecin neurologue. J'ai la maladie d'Alzheimer à déclenchement précoce.
Attends, c'est absurde. T'es sûr ?
Il n'y a plus aucun doute possible, elle a la maladie.
Le souci, c'est que le type d'Alzheimer dont je suis atteinte est extrêmement rare. Et il est familial, à transmission génétique. C'est pas vrai.
On imagine que c'est son père qui lui a transmis le gène. Et bien sûr, on est très inquiet. Pour vous trois. Il y a un test que vous pouvez faire, mais c'est à vous de décider si vous voulez savoir ou non.
Je suis désolée.
Voilà, il s'agit des enfants, évidemment, de cette femme Alzheimer, Alexandra Dürr. Vous n'avez pas vu le film, mais vous en avez beaucoup entendu parler, et vous pouvez commenter cet extrait.
Je pense que là, ce qui est très touchant dans cet extrait, c'est l'annonce des parents qui doivent dire à leurs enfants qu'ils sont à risque, qu'ils l'ont peut-être pas compris, ou les parents pensent que les enfants ne l'ont pas compris, parce que souvent les enfants ont compris qu'ils ont peut-être un risque. Et je pense que cette transmission d'informations à ce moment-là, d'annoncer qu'il y a un risque, c'est déjà quelque chose qui est très compliqué. Et je pense que là aussi, l'accompagnement peut être très important, de pouvoir dire aux personnes, mais venez si vous voulez discuter, à quel moment vous voulez dire à vos enfants, comment vous allez leur dire et quel test on peut leur proposer.
Yves Agide.
Non, je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que la maladie de Huntington, c'est une maladie héréditaire, de telle que les enfants ont une chance sur deux d'avoir la maladie. Pour la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le cas. Pratiquement, ça n'est pas une maladie héréditaire. On dit que c'est moins de 2%, probablement entre 1 et 2% de forme familiale héréditaire. Donc, je le dis parce que souvent, dans le public, on a peur d'avoir la maladie parce qu'on a un parent, etc. Mais il faut savoir que c'est peu héritable, la maladie d'Alzheimer.
Cette question de Karine sur Twitter, une question donc à vous, Alexandra Dure. Pour quand un traitement pour la maladie de Huntington? Quelles sont les pistes aujourd'hui?
Alors, la recherche dans le domaine de la maladie de Huntington est incroyablement avancée par le fait que c'est une petite communauté. Ils travaillent tous ensemble. Donc, il y a des premiers essais thérapeutiques qui sont en place. Un essai thérapeutique est un essai, donc on ne sait pas si ça va marcher. Mais je suis très contente, presque 20 ans après la découverte du gène, qu'on est maintenant dans l'ère des essais thérapeutiques pour la première fois. Et j'en suis fière parce qu'à l'ICM, il y en a deux qui courent actuellement et on aura des réponses plus tard.
Ouais, c'est ça, avec toute la patience nécessaire.
Avec toute
toujours,
la patience nécessaire.
Parce qu'évidemment, ça demande toujours beaucoup de temps. Il faut toujours le préciser, même s'il y a beaucoup d'espoir. Hein. La génétique prédictive, donc, vous en parlerez sur la scène de l'Odéon samedi. Et vous restez avec nous pour poursuivre cette conversation avec Alain Fischer pour évoquer la thérapie génique et les maladies rares, en particulier avec vous, juste après Jeanne Haddad et Look at Them dans la tête au carré.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine over her head, clouds that look like mine, oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside.
Thank you.
Jeanne Abdel à l'instant sur France Inter et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Il s'agit d'Alexandra Durra, Alain Fischer, donc pendant quelques minutes pour nous parler donc de ce rendez-vous S3 à l'Odéon. Ce sera donc samedi et beaucoup de questions sur le site de La Tête au Carré. Sylvie demande ceci, puisqu'il s'agit d'informer sur l'évolution à venir de la société. Est-ce que vous imaginez une diffusion de la conférence en streaming? Je pense que ça ne diminuerait pas le nombre de personnes suivant l'événement dans la salle.
Je sais que toutes les conférences seront filmées très soigneusement par des professionnels et que ça partira sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça sera décalé, mais je n'en suis pas sûr.
Demain, nous dit Jacques sur Facebook, la science permettra de vivre jusqu'à 120 ans, à condition d'être milliardaire, comme préviennent beaucoup de sites. Prophétie, triste vérité, qu'en pensez-vous, Alain Fischer?
Bon, là, on entre dans ces semi-fantasmes qu'on appelle maintenant le transhumanisme, que défendent certaines personnes, y compris parfois quelques scientifiques que je qualifierais de un tout petit peu égarés dans leur discours. Je pense que scientifiquement...
120 ans, c'est pas...
Ouais,
c'est
non,
pas
mais
quelque chose
d'exceptionnel. C'est à la limite, disons. Mais scientifiquement, c'est quand même pas vraiment fondé parce que l'analyse du vieillissement, même si c'est pas tout à fait mon domaine, est largement complexe et c'est pas avec un élément ou deux qu'on arrivera à changer les choses. Donc je pense qu'il faut rester très, très raisonnable là-dessus. Mais néanmoins, derrière, il y avait un autre aspect dans la question, c'était l'accessibilité aux soins.
C'est ça.
Je rebondis.
Absolument.
Parce que il évoquait seuls les milliardaires pourront en bénéficier. Alors, l'histoire des 120 ans m'intéresse pas, entre guillemets. Ce qui m'intéresse néanmoins, par contre, c'est que les soins réels, les vraies avancées de la médecine puissent bénéficier à tous. Et là, l'enjeu est très important. C'est un enjeu strictement politique au sens le plus noble qu'il soit. La France est un pays où nous bénéficions d'une sécurité sociale assez remarquable, même si elle nous coûte cher. Et cette affaire, elle va être compliquée par le coût croissant des nouvelles thérapeutiques.
Yves Agide, un petit mot là-dessus aussi.
Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y aura justement une des conférences qui sera précisément sur ce sujet. Car on a le devoir, si vous voulez, je trouve, d'être un peu critique de temps en temps pour revenir à des choses sérieuses, fondées scientifiquement, même si on a beaucoup d'espoir.
Alexandra Dur.
Je pense que l'homme augmenté est quand même quelque chose qui va changer et améliorer notre condition de vie et même la prévention de certaines maladies. Donc je pense que l'augmentation n'est pas que par les milliardaires, et c'est pas seulement pour vivre jusqu'à 120 ans, mais on peut s'améliorer quand même.
Oui. Qu'en est-il, demande Catherine, du pré-diagnostic pour les maladies telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression?
Pour l'instant, pour les maladies psychiatriques, il n'y a pas, sauf chez l'enfant peut-être, de diagnostic prédictif, tout simplement parce que les études génétiques qui ont été faites dans les maladies comme la dépression ou la schizophrénie montrent qu'il n'y a pas une mutation, mais qu'il y a des quantités de mutations. En réalité, on doit parler dans ces maladies plutôt de facteurs de prédisposition. Et donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de diagnostic prédictif dans ces maladies-là.
Alain Fischer, vous êtes à l'origine des travaux sur les bébés bulles, ces enfants atteints d'un déficit sévère, obligés de vivre dans un environnement totalement stérile. Vous avez donc reçu en avril le prix de la Japan Prize Foundation pour vos travaux pionniers dans le domaine de la thérapie génique. Et ce sera donc l'occasion, samedi, de revenir sur la thérapie génique et les maladies rares. C'est là-dessus que vous allez axer votre intervention.
Un petit mot. Alors sur 7 minutes, ça fera sans doute 1 minute 30 secondes, quelque chose comme ça.
Ouais.
Le message, c'est de dire qu'un des intérêts des maladies rares, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est de permettre de développer des thérapeutiques pour ces maladies, mais pour d'autres également. Et il y a des exemples où la mise au point d'un traitement pour un tout petit nombre de maladies rares, une nouvelle façon de procéder, peut permettre ensuite d'étendre ces traitements à d'autres. Et un exemple. La greffe de moelle osseuse, l'allogreffe de moelle osseuse, ça a commencé en 1968, presque 50 ans maintenant. Le premier enfant traité avait une maladie très rare, qui est un déficit immunitaire combiné sévère. Il a été traité aux États-Unis à Minneapolis. Et c'était la première fois que quelqu'un a pu survivre parce qu'il a reçu la moelle osseuse, en l'occurrence, d'un saint frère. Et c'était le début d'une grande aventure, favorisée entre autres par les travaux de Jean Dosset en France, sur les groupes tissulaires HLA, qui fait qu'aujourd'hui, il y a chaque année des dizaines de milliers de personnes au monde qui reçoivent une allogreffe de moelle osseuse pour les guérir d'une leucémie ou d'autres maladies graves de la moelle osseuse. Mais ça a démarré avec une maladie extrêmement rare. Vous voyez, c'est donc ce type d'exemple, à mon avis, est tout à fait illustratif. Et peut-être que la thérapie génique suivra le même chemin, mais on est au début de l'aventure.
Oui, d'où l'importance également de soutenir la recherche, évidemment, pour les maladies rares, parce que la rareté fait que, justement, on apprend beaucoup de choses pour d'autres maladies.
En fait, alors, paradoxalement, la recherche sur une maladie rare est assez simple, parce que lorsqu'il s'agit de maladies génétiques, où, pour la plupart des maladies rares, pas toutes, mais la plupart des maladies rares sont déterminées par les mutations d'un seul gène. Donc, contrairement à toutes les autres maladies dont on parlait à l'instant, il faut en parler pour la schizophrénie, etc., où les choses sont beaucoup plus compliquées. Ici, on a des situations où, assez vite, avec les outils dont nous disposons aujourd'hui pour étudier le génome, on peut trouver la mutation.
Oui.
Donc, on a fait une première étape. Mais ensuite commence, par contre, une phase très, très longue, qui peut durer des années et des années, c'est de comprendre en quoi la mutation de tel gène est responsable de telle maladie. Et ça, c'est une recherche en fait qui est proche de la recherche fondamentale, qui est de la physiologie, de comprendre quelle protéine, quelle interaction avec le génome, etc., etc., modifie de telle ou telle façon le comportement des cellules. Et ce n'est qu'après ces étapes très longues que de temps en temps, on arrive éventuellement par la compréhension des mécanismes à une thérapeutique.
Ouais, la thérapie génique, justement, Alain Fischer, c'est une des grandes promesses de la médecine du demain, où on est déjà les deux pieds dans cette pratique.
C'est une des voies de recherche thérapeutique intéressantes, mais il y en a plein d'autres. Il faut pas, celle-là est un tout petit peu fantasmatique.
Alors, on en est où aujourd'hui réellement avec cette thérapie génique alors?
Voilà, il y a aujourd'hui 5-6 maladies héréditaires, essentiellement de la moelle osseuse, pour lesquelles les résultats acquis par un certain nombre d'équipes en Europe ou aux États-Unis montrent une efficacité. Et aujourd'hui, avec une sûreté, c'est-à-dire au début, il y a eu des accidents liés à cette thérapie génique qui semblent aujourd'hui ne plus survenir. Donc ça, c'est un petit nombre de maladies. Ce dont je vous parle, c'est une centaine de malades. C'est à la fois pas mal, mais encore très très peu naturellement. Mais il y a de nouvelles avancées. Il y a eu des avancées pour le traitement de l'hémophilie par des collègues, notamment en Grande-Bretagne. Des avancées pour le traitement de maladies génétiques de l'œil. Il y a des équipes à Paris comme celle de José Sahel qui travaillent sur ce sujet et d'autres à Nantes, par exemple. Et puis des avancées à nouveau dans le domaine du cancer, assez spectaculaires pour certaines formes de leucémie. Depuis maintenant 3-4 ans, les travaux ont commencé aux États-Unis. On peut armer les globules blancs pour tuer les cellules leucémiques grâce à une thérapie génique de ces globules blancs. Et ceci est aujourd'hui démontré à avoir une efficacité certaine et c'est une autre voie de recherche. Donc progressivement, on voit se diversifier des stratégies différentes utilisant la thérapie par les gènes pour traiter d'abord des maladies héréditaires et peut-être quelques formes de cancer.
Oui, vous êtes donc directeur d'Imagine, ce qui est un lieu vraiment très particulier où se mélangent les disciplines. Et ça aussi, c'est une nouvelle façon aussi de faire de la science, c'est-à-dire mêler la clinique et la recherche dans un même lieu. C'est ce que vous avez choisi avec Imagine à Paris?
Absolument, avec tous mes collègues qui travaillons dans cet institut. Nous pensons que, en particulier pour la recherche sur les maladies rares, mais c'est la même chose à l'ICM pour les maladies du cerveau et de la moelle épinière,
merci.
Il faut...
Imagine dit merci.
Pour le chèque, ça sera après.
Voilà.
Sérieusement, il est évident qu'il nous faut concentrer sur le même lieu les compétences autour des malades, donc les malades eux-mêmes, les gens qui sont capables de voir ces malades, les experts, et puis les chercheurs, des chercheurs qui ont différents types de compétences jusqu'aux analyses informatiques, et ce n'est que comme ça que nous arriverons à progresser.
Ouais, il s'agit de vous regarder votre montre, vous avez raison, parce qu'il nous reste une minute. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire pendant ce temps qu'on vous offre encore?
Je voudrais dire que la seule chose qui est importante dans la société et chez l'homme, c'est le cerveau.
Ouais.
Et donc la seule chose qui soit vraiment importante, c'est les maladies du cerveau.
Oh, oui, ben bien sûr, évidemment.
Il exagère, je tends la perche.
Incroyable. Régine demande comment sont contactés les malades souffrant de maladies rares pour leur proposer de participer à des essais cliniques, Alain Fischer.
Alors, il y a différents types de situations, mais il y a des recrutements qui se font à travers des sociétés savantes et des groupes de malades.
Des réseaux
et qui sont directement impliqués dans la réalisation des essais cliniques et parfois d'ailleurs en amont, Yves l'évoquait tout à l'heure, dans la réflexion sur les modalités de cet essai, quels sont les besoins, quelle est la demande des malades. Donc ils sont assez souvent aujourd'hui acteurs du processus de mise en place et d'exécution de l'essai clinique.
Alexandra Dur, dernière question très vite sur l'actualité. Que pensent vos intervenants du référendum en cours en Australie sur le choix du sexe de l'enfant? Est-ce qu'on est en plein eugénisme, demande Larry sur Twitter.
Ah, je reste sans voir là.
En 10 secondes.
Choisir le sexe de l'enfant, dans le cas où il y a une maladie qui est liée au sexe qui arrive de temps en temps, et c'est très important, mais de le choisir juste pour son plaisir ou pour des raisons personnelles, je ne comprends pas.
Merci beaucoup à tous les trois. On vous retrouve donc à l'Odéon samedi, S3 Odéon, avec un site internet qui est en lien sur La Tête au Carré. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Et Fabrice Drouel, pardon, je vous ai oublié. Bonjour Fabrice,
pourtant il est là. Je ne me regarde pas.
Avec sa belle veste lavande, pourtant on ne voit que vous.
Il est mignon.
De quoi on va parler tout à l'heure?
AZF, 21 septembre 2001, Toulouse, explosion de l'usine chimique, 30 morts, 2500 blessés. Nous en parlerons avec Gérard Ratier, qui est président de l'association de victimes baptisée Familles Endeuillées. Il a perdu un fils dans cette catastrophe.
À tout à l'heure après les infos.